à la langue, enfin, quand je dis enseignement, c'est plutôt la préparation aux 3 jours de jeûne et de prière dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ceux qui viennent régulièrement, vous savez que il n'est pas rare que l'on dise... alors, on peut passer, hein, parce que... vas-y, passe. Encore. Voilà, top, merci. On dit souvent ici... Je ne veux pas dire que ce soit pénible, mais souvent les gens disent « bénis-moi ». Alors on peut comprendre qu'on veut être béni, qu'il faut parfois aussi demander la bénédiction du Seigneur, qu'il faut aussi être en bon état, on va dire. Mais à dire sans cesse « bénis-moi », produit un certain nombrilisme qui fait qu'on ne regarde plus qu'à soi, plus qu'à ses problèmes, plus qu'à ses soucis. On s'enferme en soi alors que le Seigneur nous appelle à dire « béni sois-tu ». Louange à toi, et je me donne à toi. Et en disant ces quelques mots, je l'ai déjà partagé, je ne sais pas quand, mais il y a un bout de temps, j'ai été très impressionné par le témoignage de ma maman, qui a été pendant un petit bout de temps missionnaire en Afrique. Et sur un courrier, elle m'avait raconté, parce que ça date, elle me racontait comment un jour, dans l'église qu'elle fréquentait, il y avait les offrandes. Donc les offrandes, c'est là-bas, en tout cas, dans l'église dans laquelle elle était, c'était deux personnes qui passaient des espèces de grands plateaux, parce que les offrandes... Là-bas, c'est surtout des offrandes de manioc, de bananes, de fruits et de légumes. Voilà, parce qu'il n'y avait pas forcément les finances. Et est arrivé, les personnes qui portaient sont arrivées devant un gamin qui n'avait rien. Et le gamin a demandé à ce que... en face de la place, et il s'est mis dans la corbeille en disant « je veux me donner en offrande ». J'ai été impacté par ça. C'est, ouais, ça, au point que ça reste toujours là, quoi. Donc chez moi, à la maison, j'ai un panier. Et alors ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait, mais il m'arrive parfois dans ma prière de... en souvenir de ce témoignage, de me mettre dans la corbeille. Peut-être que je la ramènerai, enfin, c'est pas une corbeille, c'est un plateau, mais enfin, bon. Les 3 jours de jeûne et de prière que nous souhaitons avoir à la fin de cette semaine, c'est l'offrande. C'est un don que nous souhaitons apporter au Seigneur. Nous n'allons pas forcément dire « moi », mais nous allons dire « toi ». Et à chaque fois que nous allons dire « moi », c'est pour nous donner au Seigneur. C'est quelques mots, c'est pas vraiment un enseignement... encore que, mais ça permet à ceux qui ne pourront pas être avec nous pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, ou pas tout le temps, ben, au moins d'avoir l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Et si vous souhaitez savoir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit à quel moment, pardon, je vous invite à aller sur le site internet de l'église et de retrouver ces mots que je partage avec vous. Comme ça, vous pourrez à nouveau entendre et savoir dans l'ordre des rencontres ce qui va se passer. Je voudrais tout d'abord parler du jeûne, mais très courtement, pour dire que dans la Bible, le jeûne, c'est l'abstention de nourriture. Alors, on peut aller un peu plus loin. Voilà, Esther particulièrement, alors c'était sans manger ni boire pendant 3 jours. Sauf erreur, ça doit être la seule fois qu'il y a ce jeûne qui dit de ne pas boire ni manger pendant 3 jours, nuit et jour. Mais sinon, le jeûne est quelque chose qui se faisait. Voilà, Esdras, lui, il publie un jeûne d'humiliation. Et son jeûne, c'est pour... Si pour Esther, c'est pour dire « Au secours, Seigneur », pour Esdras, ce sera plutôt un jeûne pour dire « Mais Seigneur, on s'humilie et on se met devant toi, agis et intervient. » Alors que le jeûne de Daniel qui dure 21 jours, lui, c'est un jeûne qui est plutôt... alors il mange... il ne boit pas de vin, il ne mange pas de viande, enfin bref, son jeûne, il ne mange que des légumes, son jeûne est partiel. Voilà. Et puis les disciples, alors, ils disent, les disciples de Jean disent, mais pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons souvent tandis que tes disciples ne le font pas? Et Jésus répond, le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et le verset suivant... c'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. » Les disciples, les apôtres, les chrétiens avaient une habitude de jeûne et de prière d'une manière régulière. Ce qui n'est pas forcément le cas dans nos églises, où nous avons perdu un peu, je ne veux pas dire l'habitude, parce que ce n'est pas une habitude, étant donné que le jeûne ne doit pas être un jeûne qui soit un rituel. Ce n'est pas non plus le jeûne... c'est pas la grève de la faim, quoi. J'insiste là-dessus parce que parfois, quand il y a des personnes qui jeûnent, je vais jeûner jusqu'à ce que le Seigneur va me répondre, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement, pendant ces 3 jours, de se mettre à la disposition du Seigneur pour, en même temps... quand je dis s'humilier, c'est juste être disponible devant lui. Seigneur, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans quel chemin tu veux nous entraîner à ta suite? Il n'y a pas de prescription. Nous parlons de 3 jours de jeûne et de prière, Vous jeûnerez si vous le souhaitez, vous ferez un repas ou 2 repas ou pas de vous sauterez pas de repas. Faites selon votre conscience. On ne viendra pas vous demander si vous avez jeûné, si vous avez tenu, etc. Parce que nous ne sommes pas non plus dans un concours. L'idée, je le disais, c'est de nous rendre humbles, malléables entre ses mains, disposés à faire et à vivre ce que le Seigneur veut que nous vivions. Je le disais, les pharisiens, et on voit ça dans la parabole que Jésus rapporte du pharisien et du publicain. Vous savez, il y en a un qui... le pharisien dit « Ah, ben, heureusement que je ne suis pas comme lui, hein, moi, je suis à la lettre, la loi, etc. Et je jeûne même deux fois par jour, quoi. » Alors Jésus dit que finalement, c'est le publicain qui est là derrière et qui s'humilie et qui dit « Je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi. » C'est son attitude qui est juste. Ça ne servait à rien, dit le Seigneur, de jeûner, de prier, si c'est pour une compétition, si c'est pour se faire voir, si c'est pour dire « Moi, je suis bien. » Parce que ce n'est pas ça le jeûne que le Seigneur veut. Donc nous allons jeûner et prier pendant 3 jours, ensemble, en communauté. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans ces jours-là? Nous allons nous inviter, alors parce qu'en même temps c'est 3 jours qui sont individuels, personnels, mais c'est aussi communautaire, parce qu'on veut vivre quelque chose de communautaire. Je parlerai plus tard de l'élargissement de ces deux aspects. Mais pendant ces 3 jours, nous allons, c'est pour ça que je vous parlais d'offrande, nous allons nous inviter à la consécration. On va se consacrer au Seigneur. On va le faire avec un geste ou des gestes d'onction et de proclamation. Tout ça. On mettra à disposition de l'huile. On espère qu'on en aura assez, sinon on ira à Intermarché. L'onction d'huile. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les 6 ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tu verseras un peu plus loin, donc tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. On voit que les onctions d'huile dans le Premier Testament étaient quelque chose de courant. Il y a donc des objets, des ustensiles qui étaient consacrés par l'onction d'huile, des personnes aussi. Donc les prêtres, les prophètes et les rois. L'onction d'huile, alors on en parle aussi dans Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. On ne sait pas trop, on va dire, on ne sait pas trop pourquoi. Sauf que l'onction d'huile est une, comment dire, c'est une marque, un peu comme la marque, vous vous souvenez, Caïn avait tué son frère Abel et il avait peur d'être tué à son tour. Et donc, il est dit que Dieu mit sur le front de Caïn une marque pour que personne n'attente à sa vie. Une marque. Nous allons faire des marques sur nous, ce qu'ils veulent, hein, parce qu'il n'y a forcément pas d'obligation, il faut en avoir la conviction. Mais il m'arrive, à titre personnel, dans ma prière et dans mon temps quotidien, il m'arrive, selon ce que je vis, de me faire des onctions d'huile. Lorsque je sens, par exemple, que le Seigneur m'amène à accepter des choses qui ne sont pas forcément faciles, Bernard, est-ce que tu acceptes de marcher avec moi, même si c'est difficile, compliqué, même si tu dois renoncer à quelque chose ? Alors, lorsque je sens que le Seigneur m'emmène sur ce chemin-là, à titre personnel, hein, je me fais une onction d'huile, de l'huile de myrrhe. Vous savez, comme Jésus a eu de la myrrhe, et la myrrhe, c'est symbole de souffrance. Et puis, quand c'est plutôt de la louange et de l'adoration, il m'arrive alors de me oindre d'huile. C'est de l'huile d'encens. C'est l'encens dans la Bible. C'est l'encens, le parfum qui est agréable à Dieu. Voilà. Et il arrive que ce soit alors une consécration, une adoration, une contemplation, quelque chose qui fait encore plus plaisir, on va dire, au Seigneur. Et là, je me oins d'huile de nard. Vous savez, le nard, c'est le parfum que Marie a répandu sur Jésus avant qu'il soit crucifié. Il faut le faire avec conviction. Mais quand je le fais, et c'est pour ça que je vous en parle, quand je le fais, c'est parce que je sais que l'onction devient quelque chose qui matérialise en quelque sorte la prière que je formule. Seigneur, je ne formule pas seulement une prière, je veux qu'elle soit, que cette prière soit visible dans les cieux. Et je fais cette onction parce que je veux que les anges de l'Éternel puissent voir, et je veux que les puissances démoniaques voient aussi. C'est un acte qui est, un acte, en tout cas en ce qui me concerne, hein, c'est un acte qui doit se voir dans les ciels, là où il y a les anges de Dieu et là où il y a les puissances démoniaques. Et au travers de l'onction, je dis, mais je ne fais pas seulement une prière, je fais une prière qui engage, qui m'engage. Et je veux que ce soit visible quelque part. Donc en même temps que l'onction, je proclame, j'ordonne, je dis les choses. Nous avons eu plusieurs fois dans notre rencontre, levons-nous. Des incitations à proclamer. Alors c'est l'autre. Ouais. Ah, bon, j'avais loupé celui-là. Respectez cet engagement et mettez-le en pratique. Parce que quand on proclame et on essaye de respecter notre engagement. Ouais, l'autre, merci. Non, ben alors tant pis. J'ai dû louper. Dans Zacharie, au chapitre 1er, verset 17, proclame encore ce message. Ah, bon, bah, d'accord, merci. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité, l'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Puis un peu plus loin, le Seigneur me dit encore, proclame ce message dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem, respectez cet engagement, ah oui, que je vous ai fait prendre et mettez-le en pratique. La proclamation, c'est de dire. C'est de prononcer, c'est d'ordonner quelque chose. On proclame, et donc la proclamation, c'est quelque chose qui doit devenir audible. Je ne sais pas si vous avez conscience, je vous pose la question sans attendre de réponse, mais je ne sais pas si vous êtes conscient lorsque vous priez ou lorsque vous proclamez, parce que la proclamation est quand même quelque chose de... Ce n'est pas juste une prière, c'est une position dans laquelle nous sommes, et dans cette position, nous proclamons et nous ordonnons. C'est ce que l'ange ou l'esprit ou Dieu dit, entre autres, là j'ai mis Jérémie, mais il y en a bien d'autres. Dit, proclame, annonce. Dans certaines de nos prières personnelles, nous sommes souvent à demander au Seigneur, à louer, à glorifier, mais ce n'est pas souvent, je pense, que l'on proclame, que l'on ordonne, que on n'use pas, c'est ce que je veux dire, on n'use pas de l'autorité spirituelle que le Seigneur nous donne. À chacun d'entre nous, quoi. C'est pas souvent, me semble-t-il, que les chrétiens se mettent dans une position d'autorité et qu'ils ordonnent. Alors, quand je dis ça, c'est que il faut pas être pasteur pour le faire. Il faut juste être disciple du Christ. Et que cette position d'autorité nous est donnée à chacun, à chacune. Proclame, annonce, ordonne. Donc vous pouvez le faire dans votre... Enfin, je vous invite en tout cas, si ça s'y prête, de le faire dans votre temps de prière personnel. Nous allons, je le disais, le faire pratiquement... Durant les 8 enseignements que nous aurons durant ces 3 jours, nous aurons la possibilité, si nous le voulons, de faire des proclamations dans les ciels, accompagnées d'un geste d'onction d'huile. Alors ça paraît bizarre hein, quand même. Je le relève juste comme ça, sans vouloir aller trop loin quand même, mais c'est quand même étonnant que même certains ustensiles, même la tente d'assignation, ont été oints d'huile, parce qu'il y avait besoin aussi que ces objets puissent être vus comme quelque chose... de consacrer, c'est-à-dire de mise à part. On fait pas n'importe quoi avec. Ce n'est pas anodin. On le fait devant les puissances démoniaques, devant les anges de Dieu, et ça nous engage. À chaque rencontre, je le disais, son enseignement. Donc je ne vais pas en dire, parce qu'on a demandé à plusieurs personnes d'intervenir et de préparer un enseignement. Qu'est-ce que nous allons proclamer? Qu'est-ce que nous allons consacrer? Dans l'ordre. C'est pour ça que vous pourrez retrouver l'ordre... au fur et à mesure, si vous réécoutez ce message. Dans l'ordre, nous allons parler du front. Nous allons parler du cœur. Nous allons parler des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche, des pieds et des mains. Et au fur et à mesure, nous allons consacrer tout cela pour que ça appartienne au Seigneur. Et pour que, au travers de la consécration, de l'enseignement et de la consécration, Je ne sais pas, moi, ce que vont dire les uns et les autres. Je n'ai pas préparé moi-même ce que je vais partager. Mais à la fin de l'enseignement, il y aura probablement des choses particulières pour lesquelles on dira, ben oui, je souhaite consacrer ma bouche, mes yeux, etc., d'une manière particulière. Mais j'en dis pas plus parce que je, même si j'ai des idées sur chaque chose, je veux pas aller trop loin. Et puis la dernière rencontre qu'on aura le samedi soir, c'est on a envie de faire la fête. Nos voix unies à celles des anges, nous voulons bénir et glorifier Dieu. Donc il n'est pas impossible. Je le mets entre parenthèses parce que j'en sais rien encore, mais il n'est pas impossible que, à chaque rencontre, on puisse vivre ce temps d'onction d'huile et de consécration. Et il n'est pas impossible que ceux qui le veulent, je pense que ce sera à disposition, ils pourront peut-être conclure ce temps avec un temps de scène. Je prends la scène avec le Christ. Je prends la scène presque tous les jours, moi. Sans vous, hein. Mais avec Dieu, avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. C'est une parenthèse, mais j'ai déjà prêché durant 7 cultes sur la scène, ici. Parce que. Et encore. Je ne voulais pas trop barber les gens. Il y en a qui me disent qu'il faudrait que j'écrive un livre avec tout ça. Un jour, j'ai été interpellé. C'est juste une petite parenthèse, mais l'Esprit Saint me dit « Tiens, ce serait bien que tu prennes la scène avec moi. » Ah bon, d'habitude, Seigneur, la scène, c'est avec mes frères et sœurs à l'église. Ouais, mais je voudrais que tu prennes la scène avec moi. Bon. Montre-moi, Seigneur. Et puis alors, contre toute attente, ça n'avait rien à voir. C'est un verset qu'on prend pour l'évangélisation. Je frappe à la porte. Si celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte... Pardon ? J'ai pas compris. Je viendrai souper avec toi. Oui, Apocalypse 3:20. Mais dans la traduction Taube, c'est « je partagerai la scène avec toi et toi avec moi ». Et je me suis dit « tiens, c'est sympa ça ». Ok Seigneur, alors on partage. Donc je partage avec lui. Alors il m'arrive rarement, mais il m'arrive des fois d'allumer une bougie. Non pas que la bougie, mais la bougie, c'est... vous savez quand... Enfin, moi, ça m'arrive jamais avec Daniel, mais... quand on soupe aux chandelles, en amoureux, avec des bougies. Hein, donc ça ne nous arrive pas. Ouais. Mais quand je prends la scène, des fois, avec le Seigneur, en disant « je veux prendre la scène en amoureux avec toi », j'allume une bougie pour être en amoureux avec lui. Lui avec moi et moi avec lui. Nous, tous les deux, en tête à tête. Avec probablement des êtres spirituels qui nous regardent. C'est... comment vous dire ça plus j'avance dans la foi... en toute humilité, mais plus je reçois une perception des choses spirituelles et surnaturelles. Le Seigneur me permet, pas tout le temps non plus, hein, mais de voir autrement que... la manière dont se vit même la vie de l'Église, la spiritualité dans l'Église. c'est mais regarde Bernard ce qui se passe dans les cieux. Ne vois pas seulement avec tes yeux humains ou tes yeux de pasteur ou etc. Mais regarde autrement. Regarde différemment. Bon, bref, voilà. Nous avons parlé d'élargissement aussi. Élargis l'espace de ta tente. Nous avons reçu ça dans l'église plusieurs fois. Et donc, il nous a semblé que l'élargissement est quelque chose de élargi, agrandi selon la version, l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge tes cordages, renforce tes piquets. En effet, tu débarderas à gauche et à droite. C'est une invitation, entre autres, hein, je ne veux pas prêcher là-dessus, mais c'est une invitation à ne pas rester confiné. C'est une invitation à ne pas rester, je ne sais pas comment on dit autrement, mais tout rikiki, vous savez, hein. Des fois, on est rabougri, rikiki. Et là, le Seigneur dit, mais élargis, vois plus loin, vois autrement. Donc pendant ces 3 jours, nous souhaitons que ce que nous allons vivre et faire soit d'abord individuellement ou personnellement, c'est chacun qui s'engage, et puis nous voulons le faire sur un plan communautaire puisque nous voulons le faire ensemble. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de vivre et de faire cela sur le plan de... En emmenant avec nous, on va dire ça comme ça, en emmenant avec nous les autres églises de la ville. Je ne leur ai pas demandé s'ils étaient d'accord ou pas. On va les embarquer spirituellement avec nous dans ces 3 jours. Nous allons embarquer avec nous la ville d'Angers et sa région dans la proclamation, parce que nous voulons étendre les cordages et que la grâce et la bénédiction de l'Éternel débordent à droite et à gauche. Il se passe des choses, peut-être vous n'avez pas conscience, mais ce n'est pas très grave, mais l'Esprit Saint est en train de faire des choses nouvelles dans notre ville, et nous souhaitons avoir un regard qui soit un regard vu un peu de haut, vous savez. En toute humilité, hein, parce qu'il n'y a pas... Moi, j'aime bien, enfin, quand je prends l'avion, c'est très rare... j'aime bien regarder d'en haut parce que on voit plus de choses. Et sur un plan spirituel, c'est un peu pareil. Lorsque le Seigneur nous permet d'avoir, ou nous invite en tout cas à avoir une vision un peu plus large, un peu plus haute. Nous sommes dans une dynamique nouvelle, me semble-t-il, dans notre ville. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de vous dire qu'on a bientôt une rencontre avec les églises de la ville. Jeudi, je ne sais plus, le 16 peut-être mars, pour un temps de prière ensemble à l'église évangélique de la rue de Bretagne à 19h. Venez parce qu'on va prier pour la ville et on va voir comment le Seigneur nous conduit pour prier pour la ville et pour recevoir les stratégies du Seigneur, non pas église par église, mais entre églises, comment nous pouvons recevoir, entendre les choses. Alors nous allons nous élargir, on dit, hein, à gauche et à droite, mais nous allons nous élargir en nous projetant aussi dans le temps et dans l'espace. Nous allons dire, on va regarder, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ou dit autrement, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle le néant à l'existence. Nous allons probablement, j'en sais rien, mais en tout cas, je prie dans ce sens-là, Seigneur, donne-nous de proclamer des choses qui n'existent pas encore pour qu'elles existent. Pour qu'elles viennent à l'existence et qu'on puisse les voir. Et ça, c'est parce que depuis la fondation du monde, alors je ne sais pas si j'ai mis les versets, mais depuis la fondation du monde, le Seigneur a décrété des choses avant la fondation du monde et il faut qu'on rentre dedans maintenant. Parce que c'est pour notre temps. Il y a des choses qui sont pour notre temps et dans laquelle on n'est pas encore entré. Donc il faut qu'on puisse dire, Seigneur, tu as décrété dans le ciel certaines choses, maintenant il est temps qu'on puisse les vivre. Et on demande à ce que ce qui n'existe pas encore puisse venir à l'existence. Parce que avant la fondation du monde, tu l'avais décrété. Donc nous, dans la vision, hein, je ne sais pas si vous pouvez fermer les yeux et essayer de voir, mais en fermant les yeux, on se dit, mais ok, on va avant que le monde ne soit créé, avant que les planètes ne soient là, Seigneur, tu avais décidé, etc. C'est un peu loin pour nous, mais ok, comme tu nous appelles à être des êtres aussi avec une pensée spirituelle, nous allons proclamer des choses que toi tu as dites, que tu as pensé, que tu as décrété avant la fondation, et nous allons demander à ce que ce soit visible, effectif pour nous aujourd'hui, parce que nous souhaitons que ce que tu vas nous faire vivre puisse durer jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire jusqu'au futur. Vous me suivez, hein ? Je suis parti dans mon délire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hein, je crois qu'il y a un verset qui dit ça. Enfin, c'est pas que je crois. Donc, nous allons essayer pendant ces 3 jours de vivre notre temps avec le Seigneur dans l'espace, dans l'espace-temps, dans le cosmos spirituel. Et moi, ça me plaît bien, quoi. Je me dis, wow, la folie. Et puis, on termine par ça. Rappelle-toi, mon peuple. En fait, on a reçu plusieurs choses le long des années précédentes, des paroles prophétiques, par des personnes, par des prophètes, par etc. Et il y a certaines de ces paroles, c'est un boulot, hein, mais on va essayer d'en mettre ici ou là pour qu'on puisse se rappeler. Rappelle-toi. Là, le verset de Josué, c'était parce que Josué demandait à ce qu'il y ait 12 pierres qui soient prises pour en faire un monument, parce que ça avait été le passage du Jourdain. Quand tu passeras par là, rappelle-toi ce que Dieu a fait. Donc, et plusieurs fois, hein, Miché, rappelle-toi, afin que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde, repens-toi, enfin... Le souvenir est quelque chose d'important parce que nous sommes dans une société où tout va tellement si vite. Vous avez déjà oublié, et peut-être moi aussi, quelle était la prédication du dimanche passé. Oui ? Non ? De quoi on a parlé ? Le berger, très bien. Non, c'est... On oublie si vite, on passe d'un truc à un autre. nous allons essayer de nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit, mais nous allons aussi rappeler au Seigneur ce qu'il nous a dit. Avec tout le respect qu'on a pour toi, Seigneur, rappelle-toi. Tu nous as fait telle ou telle promesse, tu nous as dit telle et telle chose. Alors, s'il te plaît, agis. Et puis, on va mettre les proclamations. Vous savez, depuis 2016, là, 2017, on a eu plusieurs fois des proclamations solennelles, on va dire, où nous étions tous ensemble pour proclamer des choses. Nous allons aussi mettre cela pour que nous puissions nous rappeler des promesses ou des prières solennelles que nous avons proclamer ensemble. Ça va aller ? Je vous dis ça parce que je suis resté un moment avant de savoir quoi vous dire ce matin. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que je dise à l'église qu'est-ce qu'on va vivre. Parce que ceux qui ne seront pas là, de toute façon je ne pouvais pas dire ça le jeudi matin à 7h, ni le répéter à chaque fois, à toutes les rencontres, donc autant qu'on soit tous à savoir qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, comment on va le faire. Alors je suis conscient que certaines personnes ne pourront pas être avec nous, mais... elles peuvent l'être, vous pouvez l'être avec nous dans la prière et vous-même peut-être. Pourquoi ne pas dire dans votre prière personnelle, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il en est du front, du cœur, des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche, des pieds ou des mains. Enseigne-moi et laissez-vous enseigner par l'Esprit Saint parce qu'il sait aussi le faire. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais...